Salut, c'est Alexis et vous allez écouter l'épisode 35 du podcast de Contournement. J'ai le plaisir d'y recevoir Yvan Poussier, une experte de la formation en ligne et de la productivité avec de nombreuses casquettes comme vous allez pouvoir le constater. Un profil comme on les aime, avec plein de bons conseils à partager et surtout une vraie réflexion autour de la construction d'un futur plus inclusif. Un livre, un espace de coworking, des formations en ligne et des ateliers sont juste quelques-uns des side projects d'Yvan, tous aussi passionnants les uns que les autres, et en bonus, elle vous livrera ses secrets pour s'organiser pour faire autant de choses. Allez, sans plus attendre, j'envoie l'épisode. Salut Yvan, merci de te joindre à moi pour cet épisode. Alors, on s'est rencontrés l'année dernière, à notre tout premier meet-up à Paris, à une époque qui paraît bien lointaine, où on pouvait se regrouper dans des bars, des espaces de coworking pour parler no-code et d'autres choses. Alors, tu nous avais partagé à l'époque que tu étais une avide utilisatrice de Airtable, et je me souviens aussi que tu étais sur le point d'embarquer dans un tour d'Europe des coworking féminins. Donc un an plus tard, ça c'est un projet qui a donné un livre, dont j'espère que tu vas nous parler un petit peu plus aujourd'hui. Et puis, comme tu le dis sur LinkedIn, tu es une slasheuse, tu conjugues de nombreuses activités, tu fais du consulting, des formations, même des ateliers d'écriture. Donc, tu vas nous parler un petit peu de tout ça. Et je pense que je peux dire sans trop me tromper que pour faire autant de choses en même temps, tu es un peu une experte de la productivité, en tout cas de la gestion du temps, des bons outils qui vont bien au bon moment, et puis que forcément, tu vas avoir plein de choses intéressantes à nous partager là-dessus. Voilà, j'arrête de parler, et puis je te laisse te présenter.
Salut Alexis, merci beaucoup et j'aime bien ce petit flashback puisque ça fait qu'un an et ça semble une éternité
notre
première rencontre. Et c'est vrai que ma rencontre avec le no-code et qui en fait s'est faite via Contournement finalement a changé aussi ma façon de travailler. Donc ce que tu as dit est juste, donc je suis une slasheuse ou une pluriactive en bon français, donc ça fait 4 ans en fait que je suis devenue entrepreneur après une première carrière de salarié et mon activité elle alterne effectivement entre du conseil en digital learning à travers ma première entreprise Learning Animals, de la formation que je fais en direct ou avec tout un réseau de partenaires et sur Udemy et bientôt Contournement aussi où je fais des cours en ligne plutôt axé effectivement sur productivité et gestion du temps. Et en fait c'est le digital learning qui m'a amené à m'intéresser à la gestion du temps, parce qu'en fait quand on se pose la question de qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui pour nous former en ligne, c'est pas intuitif, mais qu'est-ce qu'il faut pour se former en ligne, donc au-delà de comment je mémorise, comment je prends des notes, comment je reste attentif face à mes écrans et je tire parti de cette richesse de contenu qu'il y a en ligne. En fait, il y a comment je dégage du temps pour le faire. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai fait de la rétro-ingénierie mais au fait, comment on peut amener un maximum de gens à se former en ligne? Déjà, s'ils arrivaient à gérer leur quotidien pour dégager ce temps précieux. Donc, voilà le lien. Et en fait, j'ai élargi ça et j'ai croisé, en fait, cette exploration du futur du travail, des nouveaux modes de travail, des nouveaux modes d'apprentissage avec la cause des femmes dans le futur du travail, dans l'entrepreneuriat et la tech, en partant il y a un an faire le tour d'Europe des coworking féminins. Pourquoi ? Parce que finalement, il y a très peu de lieux quand tu es entrepreneur et femme pour vraiment te sentir stimulé par l'écosystème. C'est assez genré finalement l'expérience qu'on peut avoir. Et puis il y a un an, il y a 2 ans, il y a 4 ans, c'était encore très valable que tu veux créer une start-up, si t'as pas de développeur, donc finalement souvent quand t'es une femme t'arrives plus avec d'autres profils, et donc si t'as pas trouvé la star, la diva, la perle rare qui sait coder, de toute façon c'est hors de question de te prévaloir de l'appellation start-up et d'imaginer que tu pourrais aller lever de l'argent, lancer un projet et même rendre tangible tes idées finalement. Et ça, je l'ai découvert en suivant le Startup Leadership Project en tant que solopreneur. Très vite, tu comprends qu'il y aura jamais moyen de percer et d'accéder à tout le monde du financement, de l'investissement dans les start-up. Donc finalement, aujourd'hui, je pense qu'il y a le contexte est complètement différent grâce à la popularisation du no-code dans l'écosystème français, parce que finalement prototyper, lancer un produit, tout ça c'est complètement à la portée de n'importe qui, moyennant un peu de méthode et de patience, mais en fait, ça va très vite. Donc je suis, comme tu l'as dit, donc j'ai fait ce tour d'Europe et j'ai exploré, moi, le futur de ce que j'espère être des lieux plus inclusifs et stimulants pour les femmes et leurs alliés, puisque c'est pour les femmes et parfois ça peut être des lieux mixtes, mais créés par des femmes, hein, avec cette idée en tête qu'on va s'adresser plutôt à des solos entrepreneurs, des freelances, etc. Le digital, bah, il est au cœur quand tu gères différentes vies. Moi, j'ai différentes activités. T'imagines toutes les femmes, bah, qui gèrent aussi une famille, comme mon associé avec qui je vais créer un coworking à Poissy. Bah, en fait, tu vois que ça demande une telle polyvalence, une telle organisation que bah, finalement le digital et le no-code peuvent comment dire apporter vraiment des solutions là-dedans. Et mon amour pour Airtable inconditionnel et Béa il y a un an, bah, il est encore plus fort aujourd'hui puisqu'en fait autant Learning Animals c'est surtout de la suite Google Workspace et toute ma startup est dans Google Drive, comme ça à chaque fois que mon ordinateur explose j'ai juste à en racheter un et hop je peux retravailler, autant mon projet de coworking féminin à Poissy tout est quasiment dans Airtable. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord un voyage à travers l'Europe, donc une base de contact internationale. C'est ensuite un projet de livre où j'ai écrit le plan du livre et j'ai fait tout mon plan de production dans Airtable. Et maintenant, c'est un plan média et puis un business plan que je suis en train de créer avec énormément de rencontres, de recherches de partenaires, d'experts, etc. Et donc, tout ça, en fait, une base de données relationnelles comme Airtable, me permet de le faire et d'être ma propre chef de projet, ma propre gestionnaire de base de données contact, ma propre gestionnaire de suivi. Enfin, je pilote un grand nombre d'informations. Et puis, à tout moment, j'ai ma carte d'Europe que j'ai intégrée via l'API de Google Maps, qui me permet de visualiser aussi, à quoi ressemble ma carte d'Europe, de mes contacts actifs. Des coworking qui ouvrent, qui ferment, qui se créent, tout ça bouge et du coup c'est un vrai bonheur parce que finalement j'ai juste quand j'ai une nouvelle information, je la mets à un seul endroit, quel que soit le bout par lequel je prends la base, hop, je rajoute un contact, je rajoute une mise à jour d'un contact, j'ai collecté des commentaires par exemple sur mon livre pour le site web, j'ai fait l'architecture de mon site web avec Airtable pour savoir exactement où j'en suis et quelles sont les features que je vais les blocs que je vais ajouter au fil du temps et puis c'est hyper agréable à manipuler, donc en fait, ça, c'est aussi un levier de productivité dans la mesure où il y a une forme de plaisir en fait à travailler dans Airtable et à être assuré que tout est au même endroit et que la bonne information est au bon endroit et qu'il n'y a pas de double saisie, ce qui, ça, moi, pour moi, est le début de la non productivité. Donc voilà où j'en suis et voilà tout ça se mêle, mais pour dire que souvent les feedbacks que j'ai dans mon entourage c'est waouh Ivan, mais tu fais plein de choses, t'es super organisé, t'as toujours la réactivité, je suis aussi en inbox zéro dans mes boîtes mail. En fait ça c'est parce que il y a une énorme gestion derrière en back office de l'information, mais je sais exactement où la retrouver et je la mets à jour comme ça en un claquement de doigts.
T'as abordé plein de choses sur lesquelles on va revenir. T'as fait un petit peu tout le déroulé, tu vois, en synthèse des différentes choses que je voulais aborder. Non, mais c'est parfait. Souvent, les gens, quand je leur demande de se présenter, tu sais, ils disent trois mots et puis ils s'arrêtent et puis on reprend. Mais c'est super. Moi, il y a juste une petite question avant justement qu'on parle de ce tour d'Europe, qui est un peu le premier point que je voudrais un petit peu creuser. Sans forcément parler trop de tes expériences salariées avant, mais juste par curiosité un petit peu ton background, tu vois, juste pour comprendre, j'aime bien toujours demander ça pour savoir, tu vois, les compétences, qu'est-ce qui t'a amené, tu vois, avant d'utiliser ces outils, de faire ce que tu fais là, tu vois, qu'est-ce qui t'a amené là, juste pour comprendre un petit peu.
Ouais, moi je suis ce qu'on appelle une littéraire, mais j'ai mal tourné parce que un, je suis allée travailler 6 ans dans l'industrie, et deux, je suis devenue complètement geek et j'ai appris à coder toute seule sur R, donc j'ai fait de la data science il y a quelques années pour agiter mon cerveau et me dire que finalement le code c'était possible pour les femmes comme moi. Donc à la base j'ai un parcours bac littéraire, classe préparatoire littéraire, Sciences Po Paris, préparation des concours administratifs de la fonction publique territoriale, et j'ai travaillé en tant que chef de projet en collectivité locale, puis dans la relation client et les relations publiques et le management de la relation client dans la distribution d'électricité et de gaz, donc rien à voir. et j'étais entourée d'ingénieurs et je commençais à m'intéresser au monde des startups via du corporate hacking, en suivant coup d'état et ce que faisait The Family à l'époque sur vraiment l'esprit d'entreprendre façon Silicon Valley à la française, et j'ai très très mal tourné en fait plusieurs fois. Donc aujourd'hui, comme je suis porteuse d'un projet de coworking féminin à Poissy en banlieue parisienne, c'est vrai que mon master qui était intitulé Stratégie territoriale et urbaine va enfin me servir en tout cas mon ambition entrepreneuriale, mais à un moment donné j'ai complètement dérivé et ce que je faisais n'avait rien à voir avec mon bagage initial. Donc en plus on peut complètement considérer que je suis slasheuse et switcheuse dans la mesure où à un moment donné j'ai complètement viré de bord et exploré d'autres trajectoires pour lesquelles j'étais a priori pas programmée.
Non mais c'est intéressant parce que c'est tout ça qui fait que aujourd'hui tu as cette palette de compétences et d'expériences, des choses un peu techniques, comme tu disais carrément de la programmation en R des choses plus de gestion de projet, tout ça, enfin, tu peux le mettre à profit justement dans tout ce que tu fais maintenant, quoi.
Oui, donc c'est vrai que R, j'ai jamais utilisé dans le cadre finalement professionnel ou entrepreneurial, mais ça m'a fasciné. Et à un moment donné, puis il faut des données hein, pour coder sur R, ou il faut avoir envie de faire des concours en ligne, mais en fait, ça m'a ouvert à la pensée du code, vraiment la question, la notion d'algorithme, de programmation, de boucle logique, programmation par objet, et ainsi de suite. Et c'est vrai que très vite, tu te retrouves face à une complexité en te disant ouais, ok, mais en fait, si je veux faire un cas d'usage, en fait, il me faut ça, des données, donc qui souvent sont pas les bonnes. Enfin, le plus dur en data science, c'est la collecte des données, hein, c'est pas franchement le traitement. Ensuite, quand t'es dans R, t'as pas une interface qui est user friendly, donc qui est sympathique pour les utilisateurs. Donc ça veut dire que derrière, faut rajouter une couche. Et ça, j'ai jamais appris. Donc si tu veux vraiment modéliser et rendre l'information sympa, ou alors faut passer sur d'autres logiciels de je sais pas comme Tableau ou autre, enfin pour faire vraiment de l'infographie dynamique et de la data visualisation, pardon, c'est ça le mot. Et finalement les projets data te font rarement un use case immédiat de d'application utilisateur, et bon, moi qui fais beaucoup de relations clients, j'ai toujours l'utilisateur au cœur, je me suis ouvert à la pensée design, et c'est vrai que pour ça, du coup, le no-code m'a beaucoup plus botté très très vite, et je me suis initiée à des méthodes de Lean Startup et surtout de Design Sprint qui m'ont vraiment fait sauter les derniers verrous que je pouvais avoir, de me dire faut réfléchir pendant 6 mois avant de pousser un bouton ou de créer une landing page. Enfin, donc je pense que le no-code, il va vraiment de pair avec ce mindset, cet état d'esprit très très lean. Très itératif et frugal finalement, où tu vas d'abord parler à ton utilisateur, réfléchir et mapper ton design, enfin comment dire, formaliser presque sur papier ton cas d'usage, pour ensuite aller très vite à l'essentiel de réfléchir à franchement qu'est-ce que je veux faire ou qu'est-ce que je veux faire à l'utilisateur, dans quel ordre et comment ça peut marcher. Voilà. Et après seulement quels outils je mets au service de ça. C'est pas l'outil qui fait l'usage, c'est l'inverse.
Ouais, non, ça c'est une bonne phrase à retenir, je pense, pour les gens. C'est
un premier,
premier petit enseignement que tu nous partages. Alors, venons-en à ce premier projet, sur lequel on peut faire un petit focus. Donc, ce tour d'Europe des coworking féminins. Déjà, donc, tu l'as évoqué un petit peu, mais Qu'est-ce qui est le point de départ et un petit peu l'objectif de ça? Parce que finalement, c'était, donc, tu en as fait un livre, mais c'était vraiment un sujet de recherche, quoi, finalement, parce que tu as collecté des données. Enfin, si tu peux nous expliquer un petit peu la démarche.
Un beau jour, il y a un an et demi, avec une amie entrepreneur, donc Eva, avec qui je faisais du coworking, donc soit à Paris, soit à Poissy, on s'est vraiment dit que on aurait pu gagner beaucoup de temps sur nos premières créations d'entreprise si on avait bénéficié d'un environnement stimulant, vraiment d'entraide sincère. Et souvent, c'est dans les écosystèmes qu'on fréquentait, en majorité, donc je dirais dans 9 cas sur 10, c'était d'autres femmes qui vraiment nous avaient ouvert des portes, porte, prodiguer des conseils vraiment puissants. Et nous deux, on avait ce co-développement mensuel qui justement nous permettait de progresser, de partager sur nos problèmes, les blocages et de partager des solutions et d'inspiration. Donc en fait, plutôt que de créer un lieu en partant de zéro, rapidement en identifiant qu'il y en avait beaucoup plus que je pouvais penser en France et au-delà des frontières, surtout à travers l'Europe, l'idée c'était de faire notre étude de marché sur le terrain et pas en chambre. Et donc à partir de là, très vite, le simple fait de recenser dans une première recherche ce que je pouvais trouver via Google et quelques lectures, il a fallu très vite que pour moi ça a été immédiat de créer une base de données dans Airtable pour finalement donner sens à l'information que je pouvais collecter et très vite me rendre compte que si je faisais une recherche et que un espace qui revenait souvent dans le moteur de recherche Google avait fermé, il fallait que moi dans ma base je me le note pour très rapidement avancer mes recherches au-delà et pas avoir l'impression que j'en trouvais un nouveau parce que c'était plutôt en langue anglaise ou dans autre langue, t'as les mêmes mots clés, les noms de ces espaces se ressemblent très souvent. Donc pour avoir de la clarté et rapidement dessiner faire un recensement, j'ai créé une base, mais en fait vraiment l'idée initiale c'était on va faire une étude de marché en allant voir celles qui le font déjà pour finalement recenser les meilleures pratiques. Et pour ouvrir les portes plus facilement, et parce que c'est une démarche où tu vas demander à tes interlocutrices de te consacrer du temps, l'idée initiale, c'était vraiment d'écrire un livre blanc, donc quelque chose de public, pas nécessairement très long, mais qui permette de faire connaître ces initiatives qui sont pas franchement au cœur de l'actualité, sous le feu des médias, et inspirer. Et surtout, comme pas mal avait tendance à fermer assez vite, dans les coworking féminins, t'as vraiment plein de concepts, mais notamment des coworking avec des crèches ou des garderies, donc des business models en fait assez compliqués à faire tourner, à gérer, avec une complexité. L'idée, c'était aussi de se dire, pour que ce secteur émerge et davantage de success story, faut aussi partager les enseignements, et c'est quelque chose qui ne se fait pas. Donc, paradoxalement, j'ai recensé plus de 45 espaces de coworking en Europe, donc certains ont pu fermer ou fermer puis réouvrir. Enfin bon, l'idée c'est qu'il y en a quand même environ, je pense, une cinquantaine en Europe, enfin en instantané il y a un an avant Covid, et j'en ai analysé vraiment 30 au fil de mon tour d'Europe, donc entre septembre 2019 et février 2020, juste avant l'épidémie. Et donc l'idée, c'est de mettre en lumière ce mouvement où finalement tu as des femmes qui créent seules ou en équipe des espaces de coworking pensés par les femmes pour les femmes, réservés aux femmes ou ouverts à tous. Mais en fait, elles se parlent très peu entre elles, les créatrices. Il y a vraiment une phase où tu conçois ton projet, tu ouvres, et à partir du moment où tu ouvres, c'est un business à faible marge où tu es prise tout ton, au quotidien, tu es happée dans l'opérationnel, et il y a pas finalement de lien qui se fait facilement avec les autres. Donc moi, au contraire, arrivant un petit peu plus tard sur le marché, puisqu'il a explosé depuis le mouvement MeToo contre pour dénoncer les dérives sexistes et aussi le harcèlement sexuel fait aux femmes dans le monde du travail en général, à travers le globe. Mais donc on a vraiment une concomitance de l'essor de ces espaces de coworking féminins depuis vraiment 2017. Ça a explosé entre 2017 et 2019 en Europe. Donc maintenant que j'arrive en décalé, moi je peux me permettre d'apporter une analyse pour ensuite dans la création de mon concept qui va s'appeler donc Ada Coworking en hommage à Ada Lovelace. Moi je vais pouvoir prendre position par rapport aux différents leviers qui existent, aux différentes approches, parce que c'est très varié. Il faut pas penser qu'une femme égale une autre femme. Donc moi je parle de coworking féminin, mais qui s'adresse aux femmes au pluriel. Je parle jamais de la femme. Donc c'est varié et divers à l'image des femmes qui font ce monde et cet univers. Et en fait, à partir de là, ça m'a aussi permis de tisser du lien, et quelque part, ces femmes qui créent des petites sororités locales dans leur ville, dans leur campagne et dans leur secteur périurbain, en fait, on est en train de créer une sororité à l'échelle européenne entre ces créatrices qui sont vraiment pionnières, et pour en sortir certaines de l'isolement, parce que beaucoup l'ont fait de façon très intuitive, sans se rendre compte en fait qu'elles étaient partie prenante d'un mouvement.
Donc c'est vraiment une volonté de fédérer ce mouvement.
Ouais, donc du coup, je suis l'instrument de mise en visibilité de ce mouvement, et en publiant mon livre, donc qui s'appelle Sœurs d'armes, des femmes en quête d'espace de coworking d'un genre nouveau, et c'est toujours une quête, hein, personne n'a trouvé le modèle magique, personne n'a développé la franchise internationale, donc c'est encore une quête, c'est un combat entrepreneurial, c'est un combat pour mettre en avant des idées et changer le monde. Je l'ai aussi traduit, donc on le trouve en anglais sous le nom Sisters in Arms, Women in Search of Inclusive Coworking Spaces. Et donc l'idée, c'était à mon tour de pouvoir redonner à ces femmes pionnières et à cet écosystème émergent un outil pour mieux communiquer, un outil pour se sentir plus forte et puis derrière fédérer ces innovations. Et donc je continue dans cette œuvre-là. Donc je garde un projet moi très opérationnel, donc que j'espère ouvrir en mode prototype l'an prochain à Poissy en France, et en même temps continue à tisser ce lien et faire de l'intelligence collective à travers les frontières européennes.
Et alors est-ce que ça t'a permis aussi de voir un petit peu de plus près aussi d'un pays à l'autre, hein, c'est ça aussi qui va m'intéresser, puis on peut aussi focus sur la France, hein, mais un peu justement la place des femmes dans le numérique,
ouais.
Sachant que, alors, évidemment, dans les coworking spaces, il n'y a pas que des métiers numériques, mais bon, je pense que c'est quand même la majorité, enfin, tu me diras, justement, je sais pas, enfin, une majorité ou une part importante, mais justement, à toi de me dire, je ne veux pas dire n'importe quoi, parce que je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, puisque nous, c'est aussi un petit peu le sujet qui nous intéresse, vraiment, du numérique, et puis après, derrière, voir peut-être quels sont les opportunités du no-code aussi un petit peu pour aborder cette problématique, mais enfin voilà, ça on peut y venir après.
Alors voilà, ce qui est sûr, c'est que donc les femmes que tu rencontres, les utilisatrices des espaces de coworking féminin, elles ont toutes une pratique digitale. Tu en as effectivement une première partie qui va être très numérique parce que tu as des freelances qui font du marketing digital, du SEO, du web, du graphisme. Toutes les créatives, elles sont très très, même le blogging, enfin elles sont vraiment digitales, elles communiquent sur les réseaux sociaux. Tu as des métiers vraiment originaux, par exemple à Rotterdam, j'ai rencontré une très 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 jeune entrepreneuse qui devait être étudiante encore quelques années avant et qui était agente d'influenceur Instagram dans le business de la beauté, la beauty tech et l'influence.
Ok, c'est spécifique.
Oui. Mais du coup, c'est vraiment des femmes du coup qui sont hyper digitalisées et qui sont en fait à 22 ans, tu peux être consultante en influence Instagram dans un secteur ou comme dans la cuisine ou dans parce que elles sont vraiment sur des niches et elles créent leur métier. Donc ça, c'est hyper fascinant. Et puis tu en as qui sont vraiment dans des projets d'entreprise plus tech et qui tu as l'incubateur Willa, ex-Paris Pionnière, qui est assez connu à Paris, tu as des équivalents à Londres, à Berlin, et donc dans les écosystèmes où tu as plus de start-up, tu vas retrouver parfois des start-upeuses plutôt en phase initiale dans certains espaces. Mais après, voilà, ça c'est une première partie et où tu vas trouver des femmes très très digitales. Après, je pense que tu en as pas mal qui ont des projets d'entreprise qui de fait intègrent le digital, mais tu vois, elles peuvent être coach, elles peuvent être avocate ou comptable. Tu peux vraiment rencontrer plein de professions qui sont plutôt du coup des indépendantes ou qui vont faire du e-commerce, donc il y a une dimension très, qui est quand même physique aussi à travers des produits, et donc des créatrices, voire des artisanes. Hein, donc ça, pour ça que j'ai sursauté quand t'as dit des femmes digitales. Enfin, en fait, elles créent de leurs mains, elles créent avec leur cerveau, enfin elles créent avec tout, quoi. C'est, pour moi, c'est des créatrices. Il n'y a pas un profil vraiment qui émerge. Du coup, c'est une grande variété. Donc, du coup, elles s'appellent elles-mêmes différemment. Ce qui est très rigolo, c'est les noms qu'elles se donnent à travers les pays, puisqu'elles se nomment elles-mêmes donc entrepreneurs, créatrices, mais aussi patronne. Donc, à Paris, tu as la patronnerie. Donc, moi, je trouve ça vraiment très rigolo comme nom. À Nantes, tu as les Vikings. Donc, il y a un vrai esprit de conquête et pour le coup, des métiers très très variés et forcément une appétence pour le digital, mais encore une fois, des métiers qui sont liés à la création, qui peuvent prendre toute forme. voilà, c'est tu vas trouver après des nouveaux profils qu'on appelle plus les mompreneurs mais les parentrepreneurs. Donc là, on est dans l'anglicisme assumé, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, la tech a tellement négligé, et puis l'économie en général ont tellement négligé des besoins fondamentaux des utilisateurs, notamment quand tu deviens parent, il y a vraiment ton monde change et tu as de nouveaux besoins pour résoudre de nouvelles problématiques au quotidien. Et donc autant il y a quelques années, on avait entendu parler du mouvement des mompreneurs, et il y avait un mouvement en France qui existe toujours, mais que les sociologues ont analysé ou finalement se revendiquer de cette étiquette mompreneur n'a pas franchement nécessairement servi les femmes qui mettaient en avant leur elles aussi leur polyvalence. J'ai un congé maternité qui me permet de réfléchir et de me poser sur qu'est-ce que je veux faire. J'ai un petit enfant qui arrive dans ma vie, donc le premier est souvent un vrai déclencheur. Et là, je me rends compte que mince, j'aimerais qu'il mange bio, mais impossible d'acheter des légumes bio congelés, déjà découpés, parce que j'ai quand même pas beaucoup de temps, donc faire le marché, ça va être compliqué. Ou j'ai des jumeaux, c'est pas possible. Et donc, je vais créer le produit ou le service qui répond à cette demande dont je suis la première utilisatrice. Finalement, ça pas, c'est révélateur en fait du fait que les femmes peuvent créer des entreprises qui sont vraiment lié à des, on va dire, problématiques féminines, mais ça n'a pas forcément eu un gros impact, et derrière, elles n'ont pas forcément levé plus de fonds ou obtenu un traitement équitable par rapport à des entrepreneurs hommes qui auraient investi ces sujets, ou au contraire d'autres secteurs où il y a beaucoup plus d'argent. Donc quand tu fais du hardware, on va dire, ou de la baby tech, t'as pas les mêmes accès aux mêmes moyens. On va dire ça comme ça. Donc maintenant, ce qui permet de renouveler ce discours, c'est en allant à Londres, j'ai rencontré un coworking crèche absolument extraordinaire qui s'appelle Cuckoo's Nest, donc le nid du coucou, créé par une paire de femmes qui sont à la base déjà dans le monde de l'hospitality management, et qui ont une plateforme qui est un espèce de Airbnb hyper chic. Si tu veux aller à Londres, séjourner dans des logements mais très design, qui transpire la vibe londonienne, donc vraiment pour une expérience de voyage absolument sophistiquée, design, et elles ont aussi une boutique, et elles font la curation de voilà, nouvelle tendance design, enfin, elles sont vraiment dans ce monde-là. Et l'hospitality management, donc déjà digital dans la façon dont elles vendaient ses services. Et elles ont créé le coworking qu'elles auraient voulu au moment où les petits-enfants sont arrivés dans leur vie. Enfin, je veux dire les enfants en bas âge. Et ça, c'est vraiment une constante, si tu veux, avant même le rapport à l'entrepreneuriat et au fait que les écosystèmes sont plutôt sexistes et que les banquiers et les investisseurs prêtent moins aux femmes ou investissent moins dans les femmes, ça, c'est une constante en Europe. Mais ce qui est encore plus intéressant, je pense, que c'est que l'arrivée du jeune enfant et du premier dans la famille va pousser des femmes à se dire, mais en fait, il y a rien pour moi, il y a rien qui me convient, il y a aucun environnement de travail où juste je serai respectée et je me sentirai accueillie avec bienveillance, quels que soient mes choix. Donc, t'as tous les cas de figure. Et à Londres, les créatrices, à la base, ce qui se passe, c'est qu'à Londres, t'as un congé maternité de droit minimum, tu vois, de six mois, qui est pas mal quand l'entreprise, enfin, quand t'as les papiers, quand t'es à ton contrat, t'as assez d'ancienneté, que tout se passe bien. Donc, c'est pas le cas pour tout le monde. Mais en fait, quand t'es entrepreneur, t'as des entrepreneurs, elles sont super bien de se dire, bah moi, au bout de 6 semaines, hop, je retourne travailler parce que mon entreprise, c'est mon autre bébé. ouais. Je serai pas forcément à temps plein. Et puis, bah du coup, je vais alterner, je vais trouver un mode de garde et tout. Et en fait, quand t'es à Londres, quoi, mais tu reprends après 6 mois, mais est-ce que au moins tu allaites ton enfant? Quoi, tu l'allaites pas? Mais c'est un scandale. Enfin, si tu veux, t'as une représentation de ce que devrait ou devrait pas faire une mère active en fonction de quand est-ce qu'elle a eu son enfant, le fait de pas allaiter, c'est très mal vu. Mais du coup, si tu retournes au travail et que tu veux allaiter, mais t'as pas de salle pour tirer ton lait. Enfin, c'est aussi basique que ça, où t'as toutes ces injonctions paradoxales. Et puis, selon le pays où t'es, avec en plus des femmes que j'ai rencontrées de toute nationalité, qui y a un vrai brassage en Europe dans ces catégories sociales, Donc si toi, dans ton pays, l'allaitement, c'était un must et que tu es dans un pays où on s'en fiche et tu te retrouves à tirer ton lait avec ta pompe à lait, juste t'as que les toilettes pour le faire,
ouais,
c'est très frustrant. Et puis, tu as des pays où, comme tu t'arrêtes, tu vois, en Autriche-Hongrie, au contraire, le congé maternité est très est assez intéressant, en tout cas pour celles, tu vois, tu as jusqu'à 3 ans avec différentes modalités financières, voire autant que tu veux, puis on te donne un budget et puis tu le dépenses comme tu veux et tu t'arrêtes autant que tu veux. Par contre, quand tu reviens au travail, on te dit quoi? Tu as eu 2 enfants, ça fait 6 ans qu'on t'a pas vu, mais tu es inemployable. comment oses-tu revenir? Donc, en fait, il y a toujours cette question de comment je reviens, alors qu'en plus, le monde n'est pas binaire et que certaines veulent revenir à temps partagé. Elles veulent, les jeunes pères veulent s'impliquer aussi dans l'éducation du jeune enfant. Donc, du coup, bah, tu as plein de femmes, c'est aussi une façon pour elles de revenir en douceur et de pas opposer congé maternité et reprise du travail. De toute façon, le cerveau d'une entrepreneur, il fonctionne 100% du temps. Donc, je veux dire, elle n'est pas off de son projet d'entreprise et de sa vocation entrepreneuriale quand elle est en congé maternité. Au contraire, des fois, elle accélère sa réflexion. Et donc en fait, les parents entrepreneurs qui font partie de cette mouvance des coworking féminins à travers l'Europe, il y a toute une typologie, mais t'as les coworking crèches et tu trouves des parents entrepreneurs partout, hein, que ça soit un coworking crèche ou pas, elles changent un peu le comment dire. En fait, elles permettent de questionner plus, encore plus fondamentalement le contexte actuel, les environnements de travail actuels, et en fait, elles démontrent tous les manques qu'il y a aujourd'hui en termes d'inclusion des femmes et des parents et des autres. Donc ça, c'était vraiment intéressant de voir à travers l'Europe, et c'est là où le prisme européen était pertinent, puisqu'en France, le contexte est très particulier, le financement de tout ce qui est garde d'enfants est différent, et les coworking crèches qui ont pu exister n'ont pas forcément perduré dans le temps. Et quand tu vas à l'étranger, dans des contextes différents, où les flux financiers sont pas les mêmes non plus, bah tu vois, en Angleterre, à Londres, en Suisse, à Zurich, en Allemagne, à Berlin ou ailleurs, qu'il peut y avoir des concepts qui sont des vrais business. Tu vois, c'est assumer que c'est privé, qui peuvent être solidaires et créer, tu vois, de l'équité pour accueillir des familles de différents niveaux de revenus, et avec un vrai discours militant qui n'est pas que de défendre les femmes, mais qui peut, voilà, s'ouvrir à d'autres cas de figure, et notamment l'inclusion des parents, des jeunes parents dans l'environnement de travail et d'autres causes. Donc c'est ça qui est fascinant, c'est que finalement, quand tu déroules la pelote, tu te rends compte que beaucoup de femmes peuvent être artisanes d'un changement vers plus un monde plus inclusif, plus équitable, et qu'en fait, elles se cantonnent pas à la stricte problématique genre ou même féministe, mais qu'en fait, ça va permettre d'embarquer de plus en plus de personnes sur des problématiques de plus en plus variées.
Ouais, d'accord. Bah écoute, c'est un bon, je pense, panel, enfin voilà, un peu vue d'ensemble de tout ce qu'on peut voir en Europe. Et alors, justement, plus spécifiquement sur la question du numérique, parce que tout à l'heure, tu as dit un truc hyper intéressant, entre toutes les choses que tu as dites, mais c'est de. Quand on se lance, quand on lance une entreprise, alors ça, globalement, déjà, c'est vrai pour tout. Enfin, quand on lance une start-up, on va dire, tu vois, sur ce côté vraiment start-up, il faut des développeurs, il faut de la technologie, il y a ce truc un peu qui commence à changer, hein, mais quand même, il y a eu longtemps, ça, ce truc. Et donc, on voit, hein, de toute façon, aujourd'hui, tous ceux qui ont le pouvoir, ce sont des Zuckerberg, des, je sais pas, tout ça, c'est des anciens nerds, voilà, qui, parce qu'ils ont mis la technologie au centre de leur truc, ils ont construit des empires. Et, c'est que des hommes blancs de 30 et 50 ans, je sais pas. Et parce que je pense que, comme tu disais, hein, il y a l'accès à la technologie. Alors déjà, bon, est-ce que la technologie doit être au centre du projet? Ça, c'est une première question, mais l'accès à ça, peut-être moins facile quand t'es une femme. On sait qu'il y a beaucoup moins de femmes développeuses. Ça, c'est un problème, et il y a pas mal d'initiatives là-dessus, mais bon, on est encore loin de la mixité. Et donc, peut-être, est-ce que le no-code résout un peu peut en tout cas être un élément de réponse? Tu vois, par exemple, Erwan a fait une intervention chez Willa cette semaine, justement, là, quand on enregistre, enfin hier.
D'accord.
Pour essayer d'apporter ce genre de choses. Donc, nous, on croit pas mal là-dedans, mais j'aimerais bien ta perspective, tu vois, enfin, sans donner la réponse à la place, justement, plutôt, toi, avoir un petit peu ta perspective là-dessus, peut-être élargir un peu tout ça, quoi.
D'accord. Oui, en fait, je pense que la révolution digitale et les success stories que tu décris ont mis l'accent sur la technologie et de fait, ça a été excluant pour les femmes et les minorités parce qu'il y a eu une glorification aussi de la figure du geek et du développeur qui est complètement surévaluée en fait et qui a pu avoir un effet répulsif ou en tout cas de créer une censure sociale. Donc, je parle pas d'auto-censure parce qu'en réalité, la censure sociale, c'est le fait que comme tu es une fille, une jeune fille, une jeune femme, et qu'en plus tu as fait des choix d'études au début d'orientation vers des matières littéraires ou sciences humaines et sociales ou même business, et aujourd'hui on en trouve plein de femmes dans le marketing digital pour le coup, qui est pas moins technique que le code, et ben finalement le ça crée une grosse barrière à l'entrée pour une reconversion, une mobilité vers ça, surtout que moi c'est quelque chose que je me suis dit, donc je vais vraiment parler à titre personnel. Tu te dis bon bah le geek qui depuis l'âge de 12 ou 15 ans a eu toutes les générations d'ordinateurs successives et s'est familiarisé avec des dizaines de différents langages de code, bon bah je vais arriver là-dedans et moi ce qui m'intéresse à un moment donné, tu vois, c'était de coder en R ou éventuellement d'apprendre Python, c'était pas de refaire les bases de CSS, C++ ou HTML, alors qu'aujourd'hui quand je fais du WordPress, bah bien sûr que je vais trouver les bouts de code qui me manquent et je mets des petits bouts de CSS dans la case qui va bien de mon page builder Elementor sur WordPress. Et en fait, le fait que c'est du code, enfin, on s'en fout parce que je copie-colle un truc qui est censé marcher parce que j'ai lu un article de blog et puis vlan quoi, ça m'a pris 10 minutes de le trouver, de le copier-coller. J'ai pas l'impression d'être une diva du code ou une artisane, tu vois, du du développement. Et là, ça, quand tu le pratiques, je pense que tu déconstruis cette représentation, mais qui est encore assez vivace et qui crée encore une fois de la censure sociale, parce qu'en fait, tout le monde est capable, mais il y a vraiment un frein culturel. Donc ça, c'est mon vécu personnel, et il y a des tas d'études sur pourquoi les filles s'orientent ou pas vers la tech, etc., etc. Donc après, avec le no-code, on fait le chemin inverse, et surtout, je pense que ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution digitale, c'est mal nommé, donc on met encore une fois l'accent sur le digital parce que les outils, les technologies, tout ça. Mais en fait, c'est une révolution des usages. Donc, l'important, c'est de mettre l'utilisateur au cœur et d'adopter cette posture donc user-centric qui est vraiment issue de toute la pensée design, le design thinking. Le design thinking, donc le design sprint, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres philosophies. Et le no-code, il rejoint aussi une autre branche de l'histoire de la pensée. Donc là, c'est plutôt la fan de philo et d'histoire des idées qui parle. Tu as aussi tout un mouvement entrepreneurial frugal que tu retrouves soit qui vient d'Inde, Et finalement des pays en développement à travers le courant Jugad, où comment tu entreprends quand t'as peu de moyens. Et ça, c'est une bonne façon finalement d'entreprendre en restant, en collant à l'essentiel et aussi en étant économe de ressources, parce qu'il y a aussi un problème pour la planète au rythme.
Absolument.
Ouais. On va, voilà, je comprends pas à quoi ça sert de construire une voiture Tesla. Je pense que l'empreinte écologique d'une voiture Tesla, entre aller d'un point A à un point B par n'importe quel moyen de transport, je pense qu'il n'y a pas photo, mais c'est une autre question. Donc l'autre branche, donc frugal, je pense qu'il y a des mouvements Jugad, et c'est bien résumé quand Google ou je sais plus quelle entreprise de la Silicon Valley disait à ses ingénieurs, bon bah tous les mercredis on va passer nos réseaux internes en 2G pour que vous sachiez ce que ça fait d'utiliser vos applications sur un smartphone en Afrique. et là, on va voir si vos applications, elles sont vraiment performantes, puisque beaucoup d'utilisateurs vont les utiliser en conditions dégradées, aux mauvaises accessibilités réseau. Ça, c'est vraiment pertinent, en fait, parce qu'au final, tu crées des applications plus lean, plus économes en ressources, qui s'affichent plus vite. Et ça, c'est de l'art. Tu vois, c'est plus du code que tu fais au kilomètre et où ça marche, mais avec des, voilà, à un moment donné, il y a une économie de moyens nécessaire. Et le no-code.
Je pense qu'il y a pour compléter sur cette notion de frugalité, je dirais qu'il y a une notion aussi de sobriété, finalement.
Sobriété, c'est le mot.
Qui est importante, c'est conjugué, c'est un peu la frugalité des moyens, mais aussi au service d'une certaine sobriété fonctionnelle. Et je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, sur le côté. C'est plus la technique pour la technique, c'est à la fin, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Et ce qu'on en fait, ça peut être plus sobre, moins clinquant, moins de surenchère technologique, et du coup, moins de surenchère dans les outils au départ aussi pour le faire, et donc,
Tout à fait.
Les outils no-code peuvent voilà. être très, très adaptés. Quoi.
Donc, pour moi, il y a une filiation vraiment philosophique, encore une fois, qui est évidente, qui peut être implicite. Hein, il n'y a pas besoin d'aller faire une thèse de philo pour adhérer à ça, mais qui est liée au fait que si je veux avoir un impact, il faut que je mobilise les moyens qui vont bien. Et puis finalement, la pire chose, ça serait de pas parler à un utilisateur pendant 6 mois. Et puis le jour où tu sors ton début d'appli, tu te rends compte que en fait t'as eu un gros parti pris, un gros biais au début, et que tu dois tout recommencer. Enfin ça c'est pas lean comme démarche. Donc on est aussi dans cette idée de frugalité, de sobriété quand on parle aussi d'effectuation du mot effect. L'effectuation, la pensée effectuelle, c'est un autre courant de pensée entrepreneuriale qui est vraiment lié à cette frugalité, mais surtout à cette question de qu'est-ce que je peux faire avec les moyens dont je dispose. C'est-à-dire, je suis pas obligée de repasser par la case école d'ingénieur informatique pendant 5 ans, ce qui est un peu la problématique des femmes comme moi qui quittent le salariat après 10 ans d'expérience. Tu te dis, mince, pour devenir médecin, avocat ou ingénieur informatique, ça va être un peu difficile de tout reprendre à zéro pendant 5 ans ou 3 ans ou 2 ans sur Open Classrooms en alternance. Donc, non, que puis-je faire avec les moyens du bord? Et ben en fait, l'effectuation t'apprend à le faire de manière itérative en allant à la rencontre de tes utilisateurs, en trouvant des partenaires, en mobilisant quelque part un mini écosystème autour de toi pour compléter les compétences et les ressources que tu as, et surtout très vite entrer en phase de test. Donc en fait, c'est un peu le pendant du design sprint où tu fais tout en équipe en 5 jours. Et ben l'effectuation, c'est un design sprint qui peut te prendre un an parce qu'il va être très itératif et tu peux le faire en solo, parce que finalement tu apprends aussi ces compétences et ce quelque part à prendre un leadership par le faire. Et en fait, quand tu vas à la rencontre des utilisateurs, des experts, t'interviews un designer UX, tu demandes un avis à un graphiste, tu vas parler à 5 utilisateurs test, tu crées beaucoup plus d'intérêt et d'empathie pour ta démarche et ton projet et de légitimité que je casse ma tirelire, je dépense X dizaines de milliers d'euros parce que j'ai vu des femmes faire ça il y a encore quelques années à Station F pour payer le développeur qui lui prend aucun risque dans l'histoire parce qu'il est payé à l'heure et en plus il aura des parts de la startup à la fin, que le truc marche ou pas, parce que je le sors, je prends un an et demi voire 2 ans avant de sortir une application où en fait j'ai pas de cas d'usage. Et parce que, pour le coup, le piège, c'est de se prendre comme son propre utilisateur test, sauf qu'à un moment donné, la rencontre avec le marché, l'attraction marché, se fait à travers des entretiens utilisateurs. Donc, il faut vraiment, je pense, penser à cette révolution des usages avant de penser révolution digitale, et que c'est une tautologie, que le digital crée des besoins qui résout lui-même, et finalement, quel est l'impact sur la vie des personnes. Parfois, on se pose la question. Et donc, forcément, le no-code apporte cette perspective et quelque part aussi une légitimité à faire de cette manière-là, qui finalement ringardise, je pense, tous ceux qui pensent que s'ils n'ont pas levé 400 000 euros pour amorçage afin de transformer leur PowerPoint en application avec je sais pas combien de couches de code dans 30 langages qui fait des crash tests de la mort en faisant tourner des milliards de serveurs pour des cas d'usage où j'ai toujours pas compris l'intérêt, effectivement, je pense qu'on crée aussi quelque chose de, que tu disais, plus sobre, frugal et impact. Et pour moi, l'effet levier, il peut être servir, maximal, ouais. Tu vois. Voilà, et que ça sert. Sûr, ouais. On est d'accord.
Tu vois, parce que ce que tu décrivais, moi, je trouve que souvent, ça mène à ce courant de start-up qui font des produits pour les autres start-up. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup ça dans la Silicon Valley, quoi. Tu vois, des produits hyper techniques, hyper clinquants. Et il y en a un petit peu dans le no-code aussi,
ces choses-là.
Mais tu vois... Et en fait, les seuls gens, et souvent c'est des produits qui sont chers, et parce qu'en fait ils sont destinés aux autres startups qui ont elles-mêmes levé de l'argent, et donc en fait t'as une espèce de bulle comme ça, oui. Où t'as plein de startups quand même qui ont beaucoup de sous, parce qu'il y a beaucoup de liquidités en ce moment, et qu'on sait que voilà, les startups, les gens qui ont le bon profil arrivent à lever beaucoup d'argent.
C'est ça, oui.
Et une partie de cet argent, ils le dépensent à acheter des produits des autres startups, et tu vois, donc c'est un truc comme ça qui s'alimente, et souvent c'est des trucs très techniques, très, enfin, voilà, et tu vois, effectivement, je trouve que ça va complètement à l'encontre
de ce
que tu dis, et moi je crois beaucoup à ce que tu dis plutôt, quoi.
Oui, puis en fait, ce qui est scalable et ce par quoi jurent la plupart des investisseurs, c'est les SaaS B2B, donc les software as a service dans le cloud, donc B2B, comme tu le soulignes, donc destiné aux entreprises et pas B2C au grand public. Et effectivement, moi, j'ai été pendant 6 mois, j'étais dans le programme Fellowship à l'ouverture de Station F en 2017, jusqu'à début 2018. Et en fait, la moitié des startups vendaient des choses à l'autre moitié. Mais du coup, à un moment donné, je me suis dit, mais qui change le monde? Et donc, c'est vrai que là, je suis tombée d'assez haut. Et en plus, à Station F, je vais en parler avec joie, mais tu croisais pas mal de monde, mais au final, tu discutais de façon approfondie, ben, principalement avec des femmes, donc c'est là que j'ai trouvé mon associé. Les hommes, du coup, ben, parlaient entre eux, allaient s'acheter des kebabs entre eux, manger bruyamment entre eux jusqu'à 15 heures. Enfin, c'était, et puis, il y avait des petites incivilités où tu te dis, mince, mais ce lieu est neuf, somptueux et magique. Mais on trouve des pots de bananes par terre sur la moquette, alors qu'il y a une deuxième poubelle qui n'est pas pleine, elle, 20 mètres plus loin. Et du coup, Station F, c'était un peu, malgré tous les efforts qui étaient faits pour vraiment créer un cadre inspirant, extraordinaire et inclusif, parce qu'il y avait aussi cette volonté là, tu te retrouvais entouré de blaireaux et de gens, en tout cas, qui n'est pas forcément accessibles et qui incarnaient tous les stéréotypes négatifs que je pouvais avoir avant de mettre les pieds là-bas. J'ai pas été déçue du voyage.
Malheureusement, c'est dans les startups, il y a encore quand même cette bro culture là que Uber était un peu l'étendard, j'ai envie de dire, enfin négatif, hein, mais c'est catastrophique. Et malheureusement, je veux dire, aujourd'hui, ça existe toujours parce que c'est un modèle quand même qui fait rêver une partie des gens, souvent des hommes, hein, on va pas se mentir. Principalement des hommes, je pense qu'on peut le dire clairement.
Oui, puis le fait qu'ils se
Oui, non, mais même dans les startups, ce truc de startup, on fait ça pour gagner des millions, on va lever d'argent, tu vois, souvent une sorte d'école de commerce. Et en plus, c'est dommage parce que c'est souvent à eux qu'on donne l'argent, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est un truc qui...
Oui, donc certaines femmes sont très bonnes à ça aussi, on va dire que ça peut être le jeu. Mais ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ça t'incite à recruter que certains profils et dans la tech, venant des écoles de développement, il se trouve que c'est des hommes. Et cette broculture, je dis pas qu'il y a pas de féminité toxique, hein, ça on pourra en reparler quand j'aurai un peu plus investigué le sujet. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est pas dans ces lieux des phares, des écosystèmes start-up, ni à Londres, ni à Berlin, ni à Vienne, ni à Paris, que se crée la sous-culture, la culture underground, du contraire de Brotopia. Et moi, je pense que j'ai trouvé Systopia, si tu veux. La culture bro, elle a été dénoncée en 2017 par Emily Chang à travers le livre Brotopia, qui révèle les coulisses de la culture bro dans la Silicon Valley, qui a vraiment été un énorme pavé dans la main, puisqu'il parlait, comme tu soulignes, de Uber et les autres boîtes, vraiment où il y avait du harcèlement sexuel généralisé, des cultures sexistes à mort, et les femmes finissaient par fuir, alors même qu'elles avaient été les plus valeureuses à rentrer dans la tech et à occuper des postes tech, etc. Donc après 30 ans, tu les voyais plus, elles se barraient, elles n'en pouvaient plus. En fait, nous, à travers les coworking féminins et, je veux dire, assimilés, sous toutes les formes que ça prend, on invente Systopia, en fait. C'est vraiment l'utopie concrète à toute petite échelle. Hein. Le plus petit, il fait 30 mètres carrés avec 6 postes de travail. Donc, tu vois, pour le coup, c'est hyper frugal. Et les femmes qui se lancent n'ont pas peur de faire ça avec 2 tréteaux, 4 tables Ikea et elles ramènent leur canapé et leur plante verte de chez elles et elles y vont. Donc là, on est dans la frugalité pure de se dire, ça doit être quoi l'expérience d'un environnement de travail bienveillant et stimulant pour une femme jeune, jeune mère ou senior, parce que alors là, le culture du jeunisme dans la broculture, c'est la double peine quand t'es une femme de plus de 40 ans, c'est fini. Et où finalement, chacune va apprendre aux autres, va apprendre des autres, va pouvoir en fait partager ces questions. On a tous des lacunes à combler, on a toutes énormément à apprendre. Et beaucoup décrivent que quand elles allaient dans les écosystèmes start-up, tout de suite, tu sais, c'est un peu les mecs qui viennent t'expliquer la vie. C'est « Attends, je vais t'expliquer. Ah bah oui, tu peux pas comprendre. » Alors que, encore une fois, des fois, c'est juste un copier-coller de code CSS. Je veux dire, j'attends pas une conférence de 2 heures pour m'expliquer que je dois faire CTRL-C, CTRL-V. Donc, tu vois, il y a un peu ce côté parfois complaisant, même de la part d'hommes qui veulent jouer ce rôle, tu vois, un peu sauveur, un peu « je vais t'apprendre le truc », ou même bienveillant et sans le vouloir. On considère qu'une femme femme qui entreprend, c'est une petite chose fragile littéraire qui qui sait pas mettre les mains dans le cambouis, alors qu'en fait, bah, généralement, c'est le contraire, elle a envie d'en découdre. Et donc, finalement, c'est entre femmes ou entre une majorité de femmes que tu vas retrouver cette dynamique, mais en fait, pur projet. Et moi, c'est, je suis vraiment tombée de haut parce que je me suis dit, je vais tomber que sur des féministes comme moi, avec en plus toutes les lectures derrière, la philosophie, la culture militante et tout. Et bah pas du tout. C'est des patronnes, comme je disais tout à l'heure, c'est des businesswomen, c'est des working women, c'est des working moms, des working dads qui ont des projets et qui veulent changer le monde, qui veulent avoir un impact, qui veulent offrir un produit ou un service qui devienne leader, qui ont une vraie ambition, mais du coup, qui veulent faire, qui sont vraiment cette culture maker du faire et de « ça marche pas, je trouve une solution ». Et je vais pas m'arrêter, prendre un livre sur la bibliothèque, aller relire Foucault ou Simone de Beauvoir et revenir. Bah, tu vois, il y a vraiment ce truc, c'est tellement dans l'action que en fait, j'ai jamais trouvé des lieux plus stimulants pour travailler et entreprendre parce qu'en fait, on fait que de la résolution de problèmes H24. Et puis du coup, mon client m'a pas payé, mon devis ceci, ma relance cela. Et derrière, c'est bon, bah tu es ton expert comptable. Enfin, c'est très concret et ça se passe et c'est organique. Quoi. Il se passe quelque chose qui en plus après, bah, te permet d'apprendre à célébrer tes victoires. Alors que quand t'es solo founder, tu te prends tout dans la figure quand ça va pas, mais quand ça va bien, tu te dis bon, et bah, what's next? Parce que j'ai encore une montagne de boulot. Et donc, tes pères féminines, donc tes sœurs, tes co-workeuses sont aussi là pour te rappeler que, et vendredi, apéro vin blanc, et on sort de et crudité, hein, parce que la bière pizza c'est bien, mais franchement, pour ton estime de soi, si tu prends du poids, t'es déjà assez sédentaire, donc on fait ça vin blanc bio, crudité, enfin, tu t'as des concepts très sympas d'after work, de breakfast, etc., qui sont très, voilà, très diététiques, bio, vegan, on se fait plaisir, mais on boit quand même. Et du coup, ben, le vendredi soir à Berlin, tu sais que t'as un endroit, si tu dois prendre une heure et demie, tu y vas et tu partages les succès de la semaine. Et là, tu vois, l'empouvoirement, ça se joue aussi à ce moment. Il y a des moments clés comme ça dans la semaine où si tu veux pas rester né dans le guidon et glisser lentement vers le burn-out, tu as besoin aussi d'apprendre à célébrer tes victoires. Et ça, c'est un truc, je pense, que tu comprends un peu tard, parce que les deux premières années, moi, en entrepreneuriat, j'étais dans la béatitude, énergie et tout. Et puis à un moment donné, non, si tu te retournes pas de temps en temps pour regarder dans le rétroviseur et te rendre compte du chemin accompli, bon, et ça c'est pas que pour les femmes, hein, c'est une leçon pour tout le monde, mais eh ben en fait, t'as besoin de renouer ce contact, d'être immergé, tu vois, dans ta communauté, te sentir vraiment incluse et de célébrer. Et en fait, célébrer, ça s'apprend. Quand t'es entrepreneur, c'est pas la chose la plus simple.
Ouais, et puis il faut célébrer avec des gens aussi. Il faut avoir les gens avec qui on a envie de célébrer. C'est bien de pas être seul, quoi. Enfin, voilà. Tu vois, et de célébrer avec les gens où t'as envie vraiment de partager quelque chose. Et puis que chacun puisse apporter à son tour sa célébration, quoi.
Voilà, et qui est sincère.
Sincèrement, t'es pas là juste pour le verre de vin blanc, t'es là vraiment pour la
et c'est
la
sincère et authentique.
Quoi.
Voilà, et c'est pas je me vante et à qui élever le plus d'argent, tu vois. Ça se joue vraiment à un niveau vraiment d'humanité et vraiment sincèrement de voilà, bah, faut le coup de sympathie avec tes où tu partages et ça t'énergise aussi finalement et les succès des autres sont aussi le reflet de ce que toi t'as apporté dans la communauté. Donc ça c'est une gratification absolument précieuse.
Ouais, non, c'est bon, écoute, tout ça est vraiment passionnant. Merci, hein, vraiment pour tout ce partage. Il y avait deux trois petites autres choses que je voulais aborder parce que quand même le temps file, mais je suis très content qu'on ait parlé principalement de tous ces sujets, hein, enfin, et que vraiment ce partage que tu nous fais, je trouvais très précieux.
Merci.
Je voulais juste rapidement pour terminer un petit peu parler de tes autres activités. Alors, on va pas pouvoir tout évoquer, mais un petit peu ce que tu fais en termes de consulting, de formation, peut-être. Et puis, voilà, il y a ce qui m'intéresse aussi un petit peu, c'est de savoir comment tu organisais ton temps, peut-être comment tu voulais un petit peu partager là-dessus avec les gens.
D'accord. Donc avec du coup Learning Animals, je travaille comme une agence de digital learning, donc je peux faire aussi bien du conseil que d'accompagner des projets de création de formation en ligne ou mixte présentiel distanciel. Et je mets la main à la pâte pour créer des cours ou en ligne ou faire des audits de parcours existants, améliorer des dispositifs et accompagner même des créateurs de cours indépendants. Et donc tout ça, c'est un savoir-faire que j'ai développé en faisant du conseil. mais aussi en créant mes propres cours, donc sur Udemy, gérer son temps et sa productivité à l'ère digitale. Donc moi, ça m'a permis de mettre vraiment tout mon système à plat. Et puis bientôt sur Contournement, Calendly, la suite sur la gestion du temps, c'est aussi comment automatiser son agenda. Enfin, pour moi, c'est un peu une des bases pour les consultants. Plutôt que de faire
des outils aussi pour compléter cette organisation, parce que ce qui est intéressant, c'est que t'as vraiment une méthodologie, enfin tu vois, manière de faire, et puis comment sur la gestion du temps, je veux dire, enfin
oui il y a les bases, voilà,
et puis les outils qui te permettent de l'implémenter, quoi. Je sais pas si tu veux dire deux trois mots peut-être là-dessus, un petit peu comme un teaser, puis évidemment on redirige les gens vers la formation sur Udemy qui est super. Donc voilà, mais je sais pas, tu vois, un petit peu.
Oui, bah, en fait, la gestion du temps, c'est d'abord de revisiter les fondamentaux qui sont, enfin, il y a des lois de la gestion du temps en fait qui ne changent pas, mais c'est juste qu'à l'ère digitale, comme on est encore plus assailli de sollicitations, il faut arriver à mettre les choses au clair, à moins disperser son cerveau, donc faire du time boxing, et aussi à bien manager les sollicitations entrantes, c'est-à-dire interagir à bon escient avec son environnement. Donc c'est là où typiquement des applications comme Calendly, mais aussi d'autres permettent, ou des formulaires où tu externalises en fait le travail et la saisie par exemple à ton client ou à quelqu'un qui te sollicite. Donc ça derrière, ça suppose que tu organises ton temps à la journée et à la semaine en étant au clair sur tes objectifs qui vont plutôt être des objectifs à 3 mois, parce que 3 mois c'est l'horizon de temps où tu as assez de temps pour avoir des résultats et tu risques moins de dévier de ton cap qu'à horizon 1 an où finalement le monde accélérant aujourd'hui, tu peux pas, c'est vraiment trop des plans dans la comète, sur la comète de faire des plans à 1 an. Donc tu deviens ton propre sprint, ça c'est une première chose. Et l'autre chose, si je devais vraiment vraiment faire des généralisations, oui, c'est que ton agenda, ton application To-Do List, et puis après, bah, si tu aimes Airtable comme moi, voilà, ça va être Airtable. D'autres, je pense, s'organisent autrement, mais deviennent assez centraux dans ta vie. Et à partir de là, j'ai fait une lecture intéressante. Enfin, je recommande vraiment la 25e heure qui permet de se saisir de ça rapidement. Mais dans la 25e heure, qui était quand même très tournée start-up, moi, j'ai vraiment essayé de croiser avec un regard critique, en fait, des techniques et des outils mentionnés dans la 25e heure avec d'autres mentionnés par Cal Newport dans Deep Work, d'autres personnes qui, sur ces sujets, à ma manière, vraiment, réduire le champ de ce qui est essentiel et éviter un peu la gadgetisation sur les outils de productivité pour dire, bah voilà, il y a peut-être 8 plugins sur Google Chrome, donc des extensions Chrome qui peuvent vraiment vous faire gagner du temps, et donc en gros je montre des cas d'usage, j'explique voilà en quoi ça peut être utile et le faire à bon escient, mais ça suppose au départ d'avoir identifié qu'est-ce qui va être clé dans ta propre gestion du temps. Donc il y a un peu un autodiagnostic à mener, et c'est aussi par rapport aux objectifs que tu te fixes et que tu rêves visite dans la matrice Eisenhower, qu'est-ce qui est important et urgent et non urgent, non important et urgent, non important et non urgent.
J'aime beaucoup cette matrice, hein. Je trouve que c'est un super moyen de prioriser les choses.
Ah bah c'est la base, hein. La plupart des gens qui sont désorganisés commencent par afficher cette matrice, c'est la première leçon. Voilà, donc il y a l'idée que une fois que pour tordre le cou au multitasking et à cette espèce de course du hamster dans sa roue. Aujourd'hui, le problème, c'est que la roue du hamster, elle est digitale, donc elle te force à courir encore plus vite. Mais au pire, tu cours très vite, tu vois ta propre queue de hamster. Enfin, tu vois, ton monde se rétrécit et accélère. Et ça, un sociologue critique allemand comme Hartmut Rosa qui a bien décrit que l'accélération, c'est anthropologiquement et culturellement, c'est un truc qui nous arrive depuis l'ère moderne et l'industrialisation dans le monde occidental. Mais du coup, à un moment donné, faut sortir cette accélération pour au contraire ralentir et agir à bon escient. Et de toute façon, notre cerveau ne sera créatif que si toutes les tâches récurrentes et à faible valeur ajoutée, on les a automatisées pour qu'elles prennent le moins de temps possible de notre temps éveillé. Et finalement, c'est plus stimulant intellectuellement de paramétrer des outils de productivité, d'automatiser certains workflows. Pour, en fait, l'idée, c'est vraiment, et ça, c'est un message clé, je pense, et que je partage avec, que je reprends de Raaf Harfouch, qui est une prof à Sciences Po et une chercheuse en anthropologie digitale. c'est vraiment de dire hustle and float. Donc hustle, c'est ok, t'as une partie de ta vie qui est alimentaire où tu t'agites, tu dois produire, tu dois rendre des comptes, t'as des clients, il faut faire de l'argent, etc. Et float, c'est si à côté tu veux une vie créative et en tout cas épanouie, ou bah tu veux créer un cours pour l'académie de contournement, réfléchir à faire des vidéos, à écrire, tu sais, je fais des ateliers d'écriture aussi, donc affiner ton point de vue, te ressourcer, te cultiver, lire et bon et quelque part mettre ton cerveau vraiment en mode créatif, donc c'est là où tu dois le moins le formater. Bah ça suppose que ce temps de création qui est beaucoup moins structuré, qui est plus dans le flow, et pour trouver ce flow, que tu sois sereine, serein sur le reste, que t'as bien cantonné à sa place, sinon ça t'envahit ta vie en fait. Le digital, c'est une façon de nous transformer en hamster dans des roues digitales sous stéroïdes. Enfin, tu vois, c'est juste pas viable quoi. Et là encore, on n'a plus aucune frugalité et là on a encore moins de créativité. Donc ça c'est des clés où derrière, ben il y a une méthodologie progressive qu'on peut mettre en place. Et donc ce qui est très rigolo, c'est que pour la première fois en 2021, je vais aussi innover. Donc chaque sujet que j'investis me permet ensuite de trouver des sujets connexes que j'explore petit à petit. Je suis vraiment une exploratrice des tendances et des nouveaux usages. Donc y compris dans cette dimension de gestion du temps, pour moi ça fait partie du self-management, tu vois. C'est en fait le confinement et la généralisation du travail à distance a aussi donné la preuve éclatante que l'individu devient de plus en plus responsabilisé sur sa propre gestion du temps. Parce que t'es chez toi, t'es tout seul, t'as plus de manager pour te dire quoi faire, tu pointes plus. Enfin, tous ceux qui peuvent travailler à distance et les travailleurs intellectuels et sur ordinateur, finalement, sont aussi en première ligne pour réapprendre à réinvestir et à leur temps et à reprendre le pouvoir en fait sur ça. Parce qu'on ne peut pas devenir des machines. Ou alors c'est trop dommage quoi. Donc dans mes sujets d'exploration, bah maintenant comme j'ai été digital nomade pendant 6 mois à travers l'Europe en faisant mon tour des coworking féminins, je suis en train de faire la même chose que pour mon cours sur la gestion du temps, donc documenter et investiguer les pratiques innovantes sur le travail à distance. Et je vais donner un cours à l'Institut supérieur de gestion à Paris, qui est une business school, sur comment affûter ces outils digitaux pour collaborer, gérer des projets à distance. Et là, ce qui est génial, c'est que à la fois, je vais pouvoir former donc des étudiants en master 2 en formation donc initiale en marketing digital et e-commerce à c'est quoi les enjeux aujourd'hui de la communication en entreprise, tu vois, avec tous ces réseaux sociaux, du chat live, des Slack, des mails, des trucs qui de partout, des Facebook, des WhatsApp, enfin, et comment les réseaux sociaux et les autres outils de communication, messagerie collaborative et tout, et messagerie asynchrone, donc, fonctionnent, et comment faire sens et optimiser tout ça. Mais du coup, dedans, je vais pouvoir instiller un petit peu de no-code en leur expliquant comment des outils comme Trello, mais après, si tu veux aller plus loin, Airtable, Notion, vont aussi s'avérer extrêmement puissants en termes de gestion de projet à distance, tout simplement parce qu'il y a cette dimension asynchrone. Et dans les entreprises aujourd'hui pionnières du travail à distance qui ont plus de locaux comme GitLab, alors pour le coup, il y a des entreprises dans la tech ou Zapier, pour le coup, donc c'est trop rigolo de faire le lien avec le monde du no-code. Eux, c'est des entreprises remote qui, en plus, ont des collaborateurs sur plein de fuseaux horaires à travers le monde, puisqu'ils recrutent les meilleurs où qu'ils soient. Et ben eux, ils ont développé aussi des méthodologies de travail complètement innovantes que je suis en train d'explorer à mon tour pour les vulgariser, les populariser en France à des étudiants en formation initiale. Et j'espère aussi que ça va permettre de donner encore plus de sens aux usages, aux nouveaux usages des outils no-code dans le quotidien de tout un chacun. Que tu sois entrepreneur, que tu sois indépendant, mais que tu sois salarié aussi. En fait, il y a un énorme levier, non seulement de productivité, mais d'apprentissage, de curiosité, et puis derrière de plaisir et de plaisir de retransmettre à ton tour. Donc ça, je pense que c'est hyper important, la transmission de ces outils. C'est que les outils ne font pas les usages, et surtout, c'est trop triste de les utiliser tout seul. Ouais. Alors que justement, il y a un pouvoir, il y a un potentiel collaboratif là-dedans qui est génial, mais ça suppose petit à petit d'identifier là où c'est plus pertinent et puis de fédérer, d'évangéliser, de communiquer par la preuve, de former et de coacher les autres pour qui finalement ils découvrent tout le plaisir qu'on a à bidouiller avec nos outils, nos codes frugaux mais puissants, petits mais costauds.
Absolument. Absolument. Eh ben, écoute, alors j'ai deux dernières questions pour conclure. On commence à arriver sur la fin. première question qu'on pose à tous les invités, du coup, je pense qu'il s'appliquera bien à toi. Si tu avais du temps encore, si tu trouves du temps en optimisant encore les choses, si tu avais un side project à lancer justement avec des outils no code, qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce que ça sera peut-être, hein, peut-être déjà dans les cartons.
Ah oui, j'ai un frigo, de projets dans Workflowy qui est rempli de plein de choses au frais. Là, j'ai un défi technique pour suite à mon tour d'Europe, qui est de créer une carte interactive d'Europe qui permette de réserver dans les coworking féminins, enfin, en tout cas de les identifier et de plus facilement orienter les internautes pour vraiment y aller dans leur pays ou leur ville respective. Et après, en side project, tu vois, là, j'ai vraiment des jalons très très opérationnels. Mmh. Donc après, ouais, ça serait ouais, une forme de, ouais, le répertoire en ligne que j'ai toujours en projet, c'est, voilà, il est dans les cartons, parce que sur Airtable tout seul, ça suffit pas. Donc après, ouais, l'idée, ça serait peut-être de trouver un moyen d'animer ma communauté à travers l'Europe de créatrices, et qu'on ait une base de données centralisée qui soit plus un workbook, un playbook, en fait, qui permet de partager l'information sur les problématiques opérationnelles et de faire du knowledge management. Ça, je pense que ça serait important. Voilà. Donc,
Avec Notion, par exemple, au hasard, je sais pas, ça me paraîtrait.
Ouais, je suis fan de Notion, j'ai la version payante, oui. Et donc, mon autre side project, c'est de créer un e-shop dans mon coworking, puisqu'il va d'abord être digital avant d'ouvrir. Il faut que je trouve des canaux, des sources de revenus additionnelles. L'idée, c'est d'être revendeur, via e-shop ou dropshipping d'outils pour les digital nomades, donc des supports ergonomiques pour le smartphone. Donc je travaille avec Moft qui est aux États-Unis et en Chine, et aussi avec le Sidephone. J'attends, parce que là il y a eu un crowdfunding, j'attends mon Sidephone, donc pour accrocher mon smartphone sur le côté de mon écran d'ordinateur. Et en fait,
le lien.
Ouais. Ah ouais, il faut parce que j'ai le proto et c'est génial. Et en fait, l'idée, ça serait de faire une curation très fine des meilleurs accessoires pour digital nomade, parce que finalement, quand tu travailles en coworking, t'as ce côté un peu nomade. Et comment améliorer quelque part l'ergonomie du poste de travail, et ça intéressera aussi les gens qui travaillent à domicile, sans investir nécessairement, tu sais, dans la table qui permet de faire assis debout, etc.
Des petites choses un petit peu plus frugales.
Des choses frugales, des accessoires, et moi j'en ai un, mais tu vois, ça coûte quoi, 90 dollars, qui me permet de travailler debout à mon bureau, en rehaussant, mais j'ai trois angles différents, deux hauteurs différentes pour mon ordinateur, et là je te parle, il est à 35 degrés sur son petit Moft Z, et ça change aussi la vie sur, parce qu'on parle d'automatisation de temps et autres, mais bon, il faut respecter notre corps et le chérir et en prendre soin. Donc en fait,
c'est ce qui permettra de l'utiliser plus longtemps aussi.
Ouais. Ouais. Donc moi qui n'ai jamais fait, tu vois, sur de la vente en ligne vraiment pure avec de l'objet physique, je sais qu'il y a des choses sympas à faire en no-code qui seront avec un tout petit stock ou en dropshipping. Je pense que ça pourra me doter en 2021 de lancer ça. En side.
Okay. Bon, c'est pas mal. Tu nous as dit trois side projects, du coup, quasiment, mais c'est.
Bah oui, donc à la fin,
c'est top. C'est quand on fait plein de choses en même temps, on a plein d'idées. Non, mais c'est génial. C'est super, justement. Alors, où est-ce que les gens peuvent te suivre pour justement voir l'évolution de tous ces projets?
Et tout ça. J'ai un profil LinkedIn en français avec Learning Animals et le site learninganimals.co. Pour la partie ADA Coworking, et les side projects dont je viens de parler, donc liés au futur du travail, ça va plutôt être mon profil LinkedIn en anglais, qui est sympa parce que c'est LinkedIn/in/Ivan, je suis la première, et donc celui-là, le site, c'est adacoworking.com.
Je mettrai de toute façon tous les liens.
Mais... Et donc voilà, c'est mes principaux réseaux avant que je me déploie un petit peu plus sur Instagram, qu'il faut que j'y aille. Mais pour l'instant, c'est là. Et sur Udemy, mon cours s'appelle Gestion du temps et productivité à l'ère digitale. pour ceux qui sont curieux et qui est pas mal là, puisqu'on est à 390 apprenants un peu plus d'un an, donc j'espère arriver à 500 en début d'année. Et ça, c'est une fierté parce qu'il est, il se démarque bien, il reste d'actualité. Peut-être je l'actualiserai aussi, c'est aussi un side project ce cours. Mais pour les curieux, il y a des extraits qu'on peut voir si ça vous botte pour après le suivre. Il est en 2 heures chrono, il est fait à ma manière, c'est-à-dire ultra compact, ultra efficace.
Super, eh ben, écoute, j'espère que suite à ça, peut-être ça contribuera à atteindre les 500. Je ne promets pas que tu atteindras les 500 suite après le podcast, ouais. Mais si on peut contribuer, ça ouais. Sera cool parce que je pense vraiment que ça peut servir à plein de gens.
Et pour le coup, j'aimerais dédicacer ce podcast à 3 personnes qui ont marqué mon apprentissage du no-code, si tu me permets.
Bien sûr, vas-y.
Je te remercie évidemment, mais c'est vrai que ma rencontre avec Erwan Kézard, elle a été assez déterminante pour me rendre compte du pouvoir du no-code et aussi, j'apprécie qu'avec Contournement, on partage les mêmes valeurs sur l'empouvoirement des femmes à travers le no-code, mais aussi tout l'environnement bienveillant qu'on peut bâtir pour ces entrepreneurs. Donc ça, je trouve ça passionnant, donc je voulais vraiment vous dire merci puisque ça fait écho à mes valeurs et aux causes que je défends. Ensuite, je voudrais faire une dédicace à Thomas Janot, qui m'a formé sur Zapier et qui est extraordinaire en termes de pédagogie parce que le jour où j'avais un cas d'usage et pas envie de passer une semaine sur la documentation de Zapier, il était là, il m'a vraiment apporté un service exceptionnel. Donc Thomas Janot de essentiel.io, c'est pas juste parce qu'il est excellent, c'est que en plus humainement le courant passe super, il est vraiment investi de ses outils. Tu l'as interviewé déjà, non?
Épisode numéro 5, si je dis pas de bêtises, donc, mais voilà, c'est un...
Il est incontournable, mais il faut le rappeler.
Bien sûr, non, tu fais bien, non, c'est... ce qu'il fait est super, c'est très très fort techniquement, je pense que sur Zapier, c'est peut-être un des plus forts, le plus fort en France, je sais pas, on va pas faire de contest, mais très sincèrement, c'est très très impressionnant ce qu'il fait. Donc, c'est ça,
il incarne vraiment l'idée que d'excellents développeurs peuvent devenir de très bons no-codeurs, parce que c'est aussi la façon de penser, c'est vraiment tout son talent. Donc, Thomas, si tu nous entends, merci pour tout. Et puis, une dernière personne qui m'a impressionnée, c'est Marina Kirsten, qui comme moi a donné une Malte Academy qu'on retrouve en replay sur YouTube, et j'ai vraiment vraiment aimé sur la partie dont là on n'a pas parlé, mais sur la construction de sites web, comment elle met en perspective aujourd'hui les différents outils no code, Squarespace, WordPress et les autres, et je trouve que c'est un rôle modèle en fait d'une femme qui se saisit, tu vois, d'un outil, d'une technologie, donc elle, je crois que c'est Squarespace, et qui arrive aussi à évangéliser, et qui est encore une fois centrée sur les cas d'usage et pas juste de dire mon outil c'est le meilleur parce que c'est le meilleur, mais qui à travers ça arrive aussi à populariser les outils de création de sites web. Et là encore, le site web qui est souvent une des premières étapes quand tu es une femme entrepreneur ou freelance, ça peut être un énorme investissement en temps et en argent. Et des gens comme Marina Kirsenberg nous permettent de comprendre qu'on peut accélérer à ce niveau-là et surtout de faire le bon choix au début pour peut-être la première plateforme qui va t'accompagner la première année ou une paire d'années quand tu te lances. Et je pense que du coup, c'est aussi un accélérateur. C'est très empouvoirant et c'est très concret. Donc je pense qu'il faut continuer à la suivre aussi.
Et bah, t'auras l'occasion de la suivre au mois de janvier puisqu'on fera un webinar avec elle sur Parabola.
Ouais. Ah bah génial, je connais pas, c'est l'occasion.
Utilisatrice assidue de Parabola, c'est un super outil, ça fait des années peut-être même que je cherche des gens pour en parler. Avec Marina, ça fait un moment qu'on échange là-dessus et puis voilà, donc finalement ça va se faire en janvier.
Ah bah voilà, c'est parfait.
Ça c'est un petit teasing, ça sera annoncé sur Communauté No Code France évidemment et puis un petit peu partout, voilà.
Ah bah génial, hâte d'entendre ça alors.
Ouais. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ton temps et puis à très bientôt. On va suivre tout ça avec attention.
Merci Alexis, à bientôt.
Salut. Ah ouais, vous avez écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu surtout. Alors, si ça vous a intéressé, ce que je peux vous proposer, c'est de rejoindre le Slack de No Code France et le channel podcast Contournement pour qu'on continue cette discussion. Vous me disiez ce que vous avez pensé de l'épisode. Et puis, si vous avez des questions, pourquoi pas. Voilà, on peut continuer à discuter de tout ça. Et si ça vous a donné envie peut-être de maîtriser un petit peu plus ces outils no code, si ce n'est pas déjà le cas, hein, peut-être que vous êtes déjà un expert, eh bien, n'hésitez pas à aller voir notre site contournement.io. Vous verrez qu'on propose différentes formations pour que vous deveniez vous aussi un expert, ou au moins que vous puissiez maîtriser ces outils pour lancer vos propres projets. Voilà, je vous dis à très bientôt.